L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission L'AJT du local. Bonjour Claire, comment ça va ?
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, en direct à Château-Gontier, ça fait plaisir après deux mois d'absence, deux jours.
T'as vu, ça y est, tu n'es plus là pendant deux jours pendant l'émission, ça te semble deux mois. Je trouve c'est que ça. Ce lapsus est très révélateur. Tu es donc en tout cas évidemment de retour ce jeudi 25 février parmi nous et on est très contents. Et aujourd'hui, donc on va pas parler que du retour de Claire évidemment, même si on apprécie, on va parler d'un contrat signé il y a quelques jours entre la ville de Château-Gontier, la région et l'État, avec comme objectif de donner un coup de pouce à l'industrie sur le territoire. On parle aussi de l'arrivée d'un nouvel opérateur sur le très haut débit en Mayenne qui va nous permettre de faire le point sur le déploiement de la fibre dans le département. Département qui serait l'un des premiers en France à avoir raccordé 100% de sa population d'ici 2022. On va voir comment. Vous entendrez aussi le nouveau témoignage d'une AESH qui accompagne les enfants en situation de handicap. Elle porte le même message que ses collègues, un vrai statut et plus de reconnaissance. Et puis on termine cette émission avec une initiation au tchoukball à Château-Gontier. Elle fait partie de notre sélection d'activités pour les vacances scolaires.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Pas de festival au fin de la rue cet été.
Les organisateurs viennent d'annoncer l'annulation totale et donc complète du festival de Saint-Denis de Gâtine, qui était initialement prévu les 2 et 3 juillet. On le sait depuis une semaine, les seuls festivals autorisés cet été le seront pour 5000 personnes maximum, assises et à distance les unes des autres. Mais l'équipe dit avoir du mal à se projeter dans cette configuration, peut-être sans bar ni restauration qui plus est. L'énergie de nos équipes bénévoles et salariés s'essoufflent, c'est une évidence, dit le communiqué de l'association. Pour les festivaliers qui ont acheté leur place, vous en saurez plus sur les modalités de remboursement d'ici le mois d'avril.
La Ligue des droits de l'homme 53 pointe les pratiques policières.
La section lavalloise de la Ligue des droits de l'homme va être reçue avec 14 autres associations et parties par la préfecture de la Mayenne. Elle dénonce des pratiques policières de certains policiers lors de la manifestation contre la loi sécurité globale le 30 décembre dernier. Des policiers auraient pris en photo des manifestants dissimulés dans une vitrine d'un magasin situé sur le parcours et l'un des participants aurait été suivi jusqu'à son domicile où il aurait été l'objet d'un contrôle d'identité. La préfecture dit prendre note des faits signalés.
Plusieurs accidents de la route hier après-midi en Mayenne.
Près de Mayenne, le premier au niveau de Grazay, un cycliste a chuté lourdement sur la route de Marcilly à la Ville. Sérieusement blessé, il a été transporté au centre hospitalier du Nord Mayenne. Et hier, toujours vers 17h, une voiture fait une sortie de route et finit dans le fossé. C'était à Saint-Herblon. Le conducteur légèrement blessé a été transporté à l'hôpital de Château-Gontier. Tandis qu'à Renazé, deux voitures sont entrées en collision sur la route de Saint-Saturnin, la D771. Les deux blessés légers ont été eux aussi transportés à l'hôpital de Château-Gontier.
Son ouverture était très attendue.
Et oui, le fast-food Burger King a ouvert ses portes hier et plus d'un millier de clients se sont pressés lors de cette ouverture. Donc ouverture qui n'était faite selon les conditions sanitaires qu'en drive ou à emporter. La file d'attente était très longue hier pour ce premier jour d'ouverture après 4 mois de travaux.
3 sites patrimoniaux réouvrent en Mayenne.
Enfin plus exactement, Claire, leurs extérieurs qui sont à nouveau accessibles au public dès aujourd'hui. On parle du musée archéologique de Jublain, du musée Robert Tatin et du château de Sainte-Suzanne. La déambulation libre est donc autorisée dans les extérieurs de ces 3 sites patrimoniaux du conseil départemental, avec plusieurs mesures mises en place, un sens d'entrée et de sortie, l'interdiction d'accès aux espaces fermés ou encore la surveillance des consignes sanitaires par quelques rondes. Et puis Claire, tu étais il y a une petite semaine sur le site de l'entreprise Manœuvre pour une signature d'un protocole d'accord pour un territoire d'industrie engagé pour son environnement, c'est son nom en entier, entre l'État, la région et la ville de Château-Gontier.
L'entreprise de produits métallurgiques recevait Christelle Morancé, présidente de la région des Pays de la Loire, Céline Broquin-Lacombe, sous-préfète à la relance, plusieurs représentants d'entreprises du territoire et Philippe Henry, président du pays de Château-Gontier, qui nous explique les principaux poids de ce protocole.
L'accueil, et notamment l'accueil de formation, c'est-à-dire que l'objectif c'est de faire en sorte aujourd'hui qu'on soit en capacité de former et qualifier nos jeunes sur nos territoires, leur ouvrir nos entreprises et le volet du logement. Parce que accueillir c'est bien, mais pouvoir aujourd'hui trouver des solutions de logement temporaire, quand on fait un stage, quand on fait une période d'immersion dans l'entreprise, de pouvoir aussi accueillir durablement des jeunes sur nos territoires et accueillir aussi durablement des familles sur nos territoires avec la possibilité de les loger, de leur trouver un logement, mais aussi de les intégrer dans la vie locale, la vie associative. On a aussi ce volet développement économique, rayonnement, accueil, réindustrialisation, développement, accompagnement là aussi de nouvelles implantations. On ne peut aujourd'hui être animé que parce que les familles qui viennent vivre dans nos territoires trouvent un emploi. C'est vraiment toute cette ambition que nous avons essayé de décrire et de co-construire au travers notamment de ce protocole d'accord. Que serait le pays de Château-Gontier sans entreprise? On est ici à l'entreprise Maisonneuve, qui est un des pionniers historiques du développement du fret ferroviaire, qui a été pour nous, sur le territoire, une réelle ambition depuis les années 2010, qui était de dire qu'on doit léguer à nos générations futures, à nos enfants, là aussi, une économie responsable qui soit directement ancrée dans cette protection de l'environnement. Le transport de marchandises, il doit, à un moment donné, trouver une nouvelle réalité et que ce soit du premier kilomètre au dernier kilomètre, on soit en capacité, là aussi, d'avoir une perspective d'un transport propre. On doit combiner le fret ferroviaire avec des carburations. Le fret ferroviaire, c'est une réelle ambition dans le pays de Château-Gontier, puisqu'on a la chance que nos aïeux nous ont légué une voie qui nous relie à Sablé. Et donc, l'ambition qu'on porte aussi dans ce contrat de territoire et ce contrat d'industrie, eh bien, c'est de pouvoir effectivement rentrer dans des études pour expertiser cette voie qui est maintenant un peu plus soignée et qu'on puisse définitivement traiter le sujet de sa restructuration pour désormais rentrer dans un volet beaucoup plus prospectif qui est le transport de marchandises. Ce que je veux montrer, c'est qu'on a aujourd'hui des entrepreneurs très très engagés dans la transition écologique et qu'on regarde aujourd'hui ce développement économique et cette force de nos territoires dans le spectre désormais de cette transition écologique en matière environnementale. Il est de notre responsabilité de pouvoir aussi léguer des projets qui aient du sens pour les générations qui viennent.
Jean-Marie Brousset, président de l'entreprise Maisonneuve, nous explique les enjeux de cet accord pour son entreprise et ses clients.
Cet accord, vous l'avez compris, il va concerner tous les industriels du pays de Château-Gontier. Et nous, clairement, on va se poser en tant qu'industriels qui transformons et vendons de l'acier. Mais on pense aussi à tous nos clients qui sont des industriels et qui, eux, vont bénéficier de toutes les modalités de cet accord. On considère clairement que l'avenir appartiendra à ceux qui seront le plus engagés dans une démarche environnementale. Même si ça peut être difficilement perceptible aujourd'hui, clairement, c'est une démarche dans laquelle tout le monde doit s'engager de façon forte. D'ailleurs, nous l'avons manifesté au travers de notre volonté de soutenir et d'amplifier nos relations ferroviaires avec nos fournisseurs sidérurgistes. Alors cet accord sera un des éléments qui va nous aider, assurément. Mais cela dit, on n'est pas aujourd'hui effrayé par la transition écologique. Clairement, on est tout à fait conscient du fait qu'aujourd'hui, nous nous vendons de l'acier, par exemple, pour faire des bâtiments. Tous les bâtiments, aujourd'hui, doivent répondre clairement à des normes environnementales fortes, très fortes. Et ce à quoi nous souscrivons pleinement. Donc non, la transition ne nous effraie pas, au contraire, mais la signature du contrat territoire d'industrie sera un outil supplémentaire pour aider l'ensemble des industries à avancer dans ce sens-là.
Céline Broquin-Lacombe, sous-préfète à la Relance, nous explique les raisons de sa présence et quelles mesures vont être mises en place.
Je suis ici parce que Territoire d'Industrie, c'est un partenariat entre l'État, la région, la communauté de communes de Château-Gontier et également les entreprises. Et donc nous avons tous travaillé ensemble à la réalisation de ce contrat. La communauté de communes est extrêmement investie sur ce sujet. Ils ont vraiment envie d'avancer, de mettre en œuvre ce dynamisme dont font preuve les entreprises du territoire. Et le but, c'était de pouvoir les accompagner dans cette démarche et de faire en sorte de mettre en avant des actions qui vont être matérialisés ensuite dans ce protocole d'accord et qui permettront d'orienter les ambitions de la communauté de communes et d'aller vers de nouvelles innovations pour que les entreprises aient envie de s'installer ici. La ligne de fret, on l'a mentionné, qui est extrêmement importante puisque ce n'est pas tous les territoires qui bénéficient d'une telle infrastructure. Donc c'est quelque chose qui convient de préserver et des investissements sont actuellement à l'étude pour pouvoir faire perdurer dans le temps cette ligne de fret. Et nous avons également parlé de l'école de production qui est un souhait porté par la région et l'État sera bien évidemment là aussi pour accompagner cette démarche.
L'école de production est un établissement formant des jeunes en décrochage scolaire leur permettant d'apprendre un métier et d'obtenir un diplôme. Il y a déjà 6 écoles dans la région. Le prochain objectif, annoncé du coup lors de la signature, est donc d'en installer une dans le département.
Merci beaucoup Claire, affaire à suivre donc pour cette école et donc cet accord avec ce qui sera mis en place donc dans les prochaines années. Bien que retardés par la crise sanitaire, les travaux du raccordement à la fibre se poursuivent dans le département avec un nouvel opérateur disponible en Mayenne. On vous dit tout d'ici 3 minutes, juste après The Strokes avec All The Time. C'était The Strokes sur l'autre radio, vous écoutiez All The Time, toujours dans votre émission quotidienne L'Agité du local. Et on en parlait juste avant justement la pause musicale, un nouvel opérateur arrive sur la fibre. Après Orange et Free, c'est au tour de SFR de proposer ses offres commerciales pour l'accès au très haut débit internet en Mayenne. L'occasion de faire le point sur le déploiement de la fibre dans le département avec Alexis Minviel, le directeur général adjoint de Mayenne Fibre, qui revient d'abord sur cette arrivée donc de SFR sur le réseau.
Alors ce que ça va changer, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 opérateurs d'envergure nationale qui sont donc Orange, Free et depuis aujourd'hui SFR, qui vont se faire une concurrence sur le réseau. Et donc ça, c'est au profit d'ensemble des Mayennais qui vont avoir le choix. Le 4e opérateur qui va arriver sur la fibre, c'est Bouygues Télécom qui doit arriver dans les toutes prochaines semaines. Donc ça veut dire qu'on va avoir les 4 grands opérateurs nationaux. Et à ces opérateurs-là arrivent également d'autres opérateurs, des opérateurs alternatifs qui sont ou pour le grand public ou pour les entreprises, comme MCT qui est une entreprise de Laval, mais également Coriolis, Bretagne Télécom, qui vont arriver avec des offres qu'on dit activées, enfin ça c'est un détail technique, et qui vont offrir leurs services sur l'ensemble du réseau de la Mayenne. Donc le réseau de la Mayenne, à la cible, c'est pas loin de 115 000 prises qui vont être déployées, donc 100% de la Mayenne sera déployée et aura accès à la fibre. Aujourd'hui, on a à peu près 45 000 prises qui sont déployées et on est sur un rythme de 3 500 prises par mois.
Donc ça ferait à peu près une fin des travaux estimée quand ? Alors estimée, hein, bien sûr. Alors, mais
initialement, dans notre convention, on devait avoir fini fin 2021, mais il y a eu la crise Covid, donc notamment en mars, le premier confinement qui a fait perdre beaucoup de temps. Et puis il y a eu aussi une grande concurrence entre toutes les sociétés qui déploient la fibre, et ce qui fait qu'au total, on estime qu'il va y avoir un an de retard, donc on aura fini les travaux fin 2022.
Et au niveau de, justement du déploiement des secteurs, est-ce qu'il y a vraiment une stratégie dans la Mayenne pour savoir quels sont les secteurs prioritaires à développer ?
Il n'y a pas de secteur prioritaire. On a un engagement de volume et de faire 100%. Donc les entreprises, il faut savoir qu'il y a des poteaux à changer, il y a des poteaux à planter, donc ça demande des équipements lourds. Et les entreprises vont là où elles peuvent travailler de façon la plus efficace. Leur but, c'est de faire du volume. Donc on n'a pas de communes qui sont prioritaires. On essaie d'aller plus vite possible au niveau global.
Pour vraiment bien expliquer la fibre, qu'est-ce que ça va changer par rapport au réseau Internet autre qui existe déjà ?
Par rapport à la DSL, la fibre, c'est les débits qui sont 40 fois supérieurs. Donc ça veut dire, et surtout la fibre a un énorme avantage, c'est où qu'on soit, le débit est le même. C'est le problème de la DSL qui repose sur le réseau cuivre. Lorsque vous êtes proche d'un central téléphonique, vous avez un bon débit. Mais dès que vous éloignez, que vous êtes à 3-4 km, le débit est quasi nul. On peut à peine téléphoner. Bien sûr, il n'y a pas de bouquet télé, etc. Donc la fibre va apporter une équité pour tous, qu'on soit à la ville ou à la campagne, on va avoir les mêmes débits. Et ça, c'est une révolution. C'est une révolution. Donc en termes d'usage, avec le confinement aujourd'hui, c'est du télétravail. C'est aussi l'attractivité des communes. C'est-à-dire que des gens qui bossent à Paris peuvent aller une fois ou deux à Paris dans la semaine, mais travailler depuis chez eux. Avec la fibre, ils vont avoir accès à toutes les ressources de leur entreprise. Donc ça va vraiment révolutionner les usages. Pour les professionnels également, c'est ces possibilités d'utiliser le cloud, de stocker toutes les données d'entreprise dans le cloud et avoir accès très facilement. Donc également pour les entreprises, ça a des impacts en termes de gains de chiffre d'affaires, de gains de productivité, donc l'impact est énorme.
Les entreprises auraient pu être peut-être, enfin pas privilégiées, mais en tout cas avoir accès à la fibre plus tôt. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou pas forcément? Vraiment, le déploiement, il se fait indépendamment des particuliers ou entreprises?
Alors, le conseil départemental a souhaité que ça soit 100% le déploiement, donc ça touche tout le monde. Alors, nous, on déploie du réseau fibre, que ce soit après une entreprise ou une PME qui prenne un accès fibre. Nous, on ne regarde pas ça, on déploie les prises. Il y a quand même une particularité, c'est que pour des entreprises, on déploie ce qu'on appelle de la fibre FTTE, c'est-à-dire des fibres qui sont dédiées aux entreprises. Donc ça coûte un peu plus cher, mais donc ça c'est aussi un réseau dans le réseau, un deuxième réseau en parallèle qu'on déploie pour des grosses entreprises qui ont de très gros besoins de débit.
Pour les autres entreprises, c'est le même réseau pour tout le monde?
C'est le même réseau, et donc pour voir si les Mayennais sont éligibles, je les invite à aller sur le site web mayenne-fibre.fr où là il y a une carte d'éligibilité et on peut voir sur la carte, zoomer en mode satellite ou plan, voir sa maison ou son immeuble, cliquer dessus. Si c'est vert, on peut souscrire un contrat fibre sur l'ensemble des opérateurs qu'on vient de citer, et si c'est pas vert, c'est rouge ou orange, on peut s'inscrire pour recevoir un mail dès que la maison, l'immeuble sera éligible. Donc après, elles peuvent aller voir. Donc on a sur le site web également une rubrique opérateurs sur lequel il y a tous les opérateurs présents. Et donc là, elle fait son choix et ça ne nous regarde pas. Mayenne Fibre, les clients de Mayenne Fibre, ce sont Free, Orange, SFR, Bouygues, MCT, Coriolis, enfin tous les opérateurs. Nous, on est grossistes. En fait, on loue, on vend des prises. Et après, ce sont les opérateurs qui commercialisent ces prises auprès du grand public et des entreprises.
C'est vrai que là, on peut en voir évidemment forcément là, des chantiers où il y a des opérateurs pour la fibre. Ça a nécessité l'embauche de combien de personnes? Est-ce que vous savez?
C'est très compliqué à dire parce qu'il y a eu plusieurs phases dans le projet. Il y a toute une phase de bureau d'études où il faut regarder si les poteaux sont suffisamment solides, faire des études de faisabilité avant de pouvoir les utiliser pour mettre le réseau fibre dessus. Il y a beaucoup de plans à faire, de dimensionnement de l'ensemble de l'infrastructure. Donc il y a une grosse activité bureau d'études qui tend aujourd'hui à s'estomper au profit, maintenant que les études sont faites, du déploiement des travaux eux-mêmes sur le territoire. Il y a 5 entreprises qui déploie la fibre en Mayenne pour le compte d'Orange, donc de Mayenne Fibre. Orange est notre sous-traitant. Donc il y a Eiffage, Circé, Bage, Sogetrel et Espy. Sachant qu'attaché à la convention, on avait un enjeu d'offrir 44 000 heures d'insertion sociale, c'est-à-dire des gens qui étaient éloignés de l'emploi, de les former à ces métiers-là et les embaucher. Ça a été un grand succès et on a plusieurs personnes qui ont eu un CDI grâce à ça, donc qui étaient assez éloignées de l'emploi et qui, grâce à cette clause d'insertion qui a été voulue par le département de la Mayenne, sont aujourd'hui en CDI.
Et si vous voulez vérifier si vous êtes éligible au très haut débit, on rappelle le site www.mayenne-fibre.fr. Et puis aujourd'hui, exceptionnellement, une deuxième interview, une nouvelle, un nouveau témoignage, celui d'une AESH qui accompagne les enfants en situation de handicap. Elle a souhaité rester anonyme, mais partage les revendications portées par l'intersyndicale. Elle réclame un vrai statut, une reconnaissance de son métier et une revalorisation des salaires.
La reconnaissance du métier, elle est très difficile parce que bon, on passe beaucoup de temps avec l'enfant, la concertation avec les enseignants, heureusement qu'ils sont là, il y a une bonne ambiance. Et je sais que si j'étais pas dans la classe, il n'y aurait pas d'AESH, la petite fille, elle suivra pas.
Puisque donc, justement, vous accompagnez une petite fille qui a quel handicap ?
Trouble moteur et trouble envahissant du comportement.
Donc ça veut dire que vraiment, votre présence, elle est indispensable pour qu'elle puisse suivre les cours ?
Oui, parce que je suis notifiée pour cette petite fille, en fait. Mais on peut nous demander du jour au lendemain d'aller dans une autre école avec une urgence qui n'a pas d'AESH, en fait.
Donc ça veut dire qu'en plus, il faut que vous soyez toujours très souple et très adaptable puisque vous pouvez être envoyée en urgence ailleurs. Ouais. C'est déjà arrivé cette année-là pour vous ?
Non, c'est pas arrivé, mais je l'espère pas parce qu'en fait, la petite fille aurait besoin de moi et il n'y aurait personne à côté, en fait. Enfin, c'est vraiment difficile parce que les parents ont besoin de nous, en fait. Et puis ils sont habitués qu'on travaille avec eux. Il y a l'autonomie, mais on a nos repères. Ils ont nos repères, en fait. Donc, ils ont besoin d'avancer avec nous. On est comme une deuxième maman, donc on ne remplace pas. Mais voilà, il y a quand même un attachement. Il y a un manque de personnel parce que ce n'est pas assez payé, tout court. Hein. Et puis on vit la précarité. On ne peut pas s'engager dans les projets pour des prêts, pour les études des enfants. C'est très difficile, ça.
Puisque, en plus, donc déjà, non seulement c'est peu rémunéré, et rares sont les AESH qui travaillent à temps plein.
Moi, je fais 24 heures, donc vous voyez, c'est un peu difficile de compléter à côté, en fait. Il faut trouver de l'intérim ou soit des heures de ménage, mais s'engager sur un contrat à court, c'est assez difficile, parce que si j'ai, par exemple, mon contrat s'arrête du jour au lendemain, je ne peux pas aller signer un autre contrat, enfin. Il y a quand même un pic au niveau des enfants violents. On ne parle pas de ça. On n'est pas assez formé pour ça. Et c'est vrai que gérer un enfant violent peut nous taper. Enfin, c'est dans la pathologie, mais il faut savoir aussi prendre la distance et puis le canaliser pour pas qu'il fasse beaucoup de violence non plus. Donc, c'est pas facile.
Puisque ça, du coup, cette violence et puis les différents handicaps des enfants que vous pouvez accompagner, vous n'avez pas de formation spécifique, en fait, c'est vraiment à vous de vous adapter ?
C'est à nous de nous adapter par rapport au métier, par rapport à la pathologie de l'enfant, l'histoire de l'enfant. Chaque enfant a son histoire et c'est surtout pas facile. Enfin, on ne peut pas gérer à l'avance, on ne peut pas anticiper. Il faut trouver toujours le moyen de donnant-donnant, en fait. Si tu fais pas ça, t'auras pas ça. Enfin...
Forcément, c'est un métier pas évident. Qu'est-ce qui vous plaît malgré tout et vous pousse à vous lever tous les matins et à continuer ?
Ce qui me pousse à me lever tous les matins, c'est qu'en fait, j'ai un enfant qui a des troubles du comportement. Il m'a donné l'envie de le faire, de pouvoir m'occuper d'autres enfants. Et voilà. Et j'adore la compagnie de ces enfants parce qu'ils ont un côté affectif que les autres n'ont pas. Enfin, voilà. Et le métier qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a la victoire quand ils ont réussi un exercice, il y a le sourire quand ils vous voient le matin parce que vous avancez avec eux, ils peuvent prendre de l'autonomie au fil du temps.
Et par exemple, là, la petite fille dont vous vous occupez, donc c'est le cas depuis septembre, mais c'est pas du tout dit que l'année prochaine, vous soyez toujours avec elle.
Non, c'est pas du tout dit, mais j'espère pouvoir continuer avec elle.
Est-ce que vous avez déjà vu ces progrès là depuis le mois de septembre ?
Oui. Ah oui. Là, ça fait un an et demi que je la suis, à peu près. C'est une petite fille qui parle pas, mais il y a des choses qu'elle avance vachement, en fait. Enfin, c'est phénoménal. Enfin, il y a des choses, je me disais, mais je vais pas pouvoir faire des choses avec elle en apprentissage, alors qu'elle évolue très bien. Rien que de compter, elle compte pas sur les doigts, mais elle sait compter dans sa tête, en fait. Mais vu qu'elle parle pas, je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir faire quelque chose. Et en fait, enfin, il y a toujours un contact, il y a le regard, il y a l'esprit physiquement, on le ressent. C'est un métier, c'est enrichissant. Enfin, c'est juste le salaire qui est pas là, il nous faut un vrai statut, en fait. Je trouve qu'on est un peu des pions par rapport au salaire qu'on a. Vous imaginez 800 euros par mois, c'est juste pas possible. Enfin, il faut pas qu'on continue dans ce sens-là. Ils vont finir par plus trouver d'AESH et c'est un super métier, c'est ce qui est dommage, en fait. Je pense, en fait, qu'on a inclus les enfants qui ont un handicap avant dans les écoles, avant de former les gens.
Justement, concernant la formation, les AESH ont 60 heures de formation généraliste et se débrouillent ensuite pour le reste pour se renseigner sur les handicaps de chaque enfant. La semaine dernière, le directeur académique a annoncé 8 nouveaux postes d'AESH, mais c'est loin d'être suffisant pour les syndicats qui estiment que 130 enfants en Mayenne auraient besoin d'un accompagnement personnalisé. On revient d'ici quelques minutes, le temps de faire une petite pause en écoutant My Brightest Diamond, It's Me on the Dance Floor. Thank you. Vous êtes toujours dans l'agité du local sur l'autre radio et on continue d'ailleurs puisque nous sommes, vous le savez, en vacances, enfin en tout cas les enfants sont en vacances et on continue notre mini-série sur les activités justement à leur proposer cette semaine et la semaine prochaine. On prend la direction de Château-Gontier pour découvrir le Tchoukball, l'une des activités proposées par le pays de Château-Gontier pendant ses vacances dans le cadre du PLACE, le programme local d'animation sportive. Reportage sur place sous le soleil avec Noël, éducateur sportif, et les enfants du groupe de 7 à 9 ans qui découvraient pour la plupart le Tchoukball.
Donc là on a dit les bleus contre les jaunes. Allez, les verts vous mettez sur le côté. Le but du jeu, il y a deux Tchoukballs, c'est des tamis en fait, comme des trampolines. Et il faut lancer le ballon dans la cible pour qu'il rebondisse. Alors soit c'est un partenaire qui récupère le ballon pour marquer le point. Ça c'est une forme de jeu. Ou il y a une autre forme de jeu où c'est l'adversaire qui doit récupérer le ballon. Autrement, c'est celui qui a lancé qui récupère le point. Et donc c'est un jeu où il n'y a pas de camp, il n'y a pas de zone. Les deux trampos peuvent participer soit à gauche, soit à droite, comme on veut. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de contact. En ce moment, on ne fait que des activités extérieures parce qu'on n'a pas le droit aux activités intérieures avec le Covid là. Donc les restrictions sanitaires font qu'on fait toutes nos activités en extérieur. Parce que cette activité-là, elle est aussi proposée en intérieur. Des fois, en salle, c'est un peu plus facile. Il n'y a pas le vent, le soleil qui peuvent interférer. Mais là, ça se fait très bien.
Bah oui, c'est facile à apprendre. Une fois que qu'on a compris, après, c'est facile. C'est un mix de tous les sports et puis c'est amusant.
Ça serait bien qu'on mette celui qui est le plus rapide au milieu pour qu'il aille rapidement à un autre but.
On est ensemble, on est entre amis, on se fait des nouveaux copains qu'on connaît pas, on se rencontre et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'on fait du sport en même temps.
Oui, 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 le faire belle, la coopération, et qu'ils apprennent à se respecter les uns aux autres, et puis qu'ils partagent le ballon, même quel que soit le niveau. C'est vrai qu'il y en a qui ont un petit peu plus des difficultés, parce qu'entre 7 et 9 ans, ce n'est pas les mêmes tranches d'âge, hein, y a déjà des différences de niveau. Mais là, il faut que ça se fasse dans la bonne humeur et dans le fair play, parce que ça reste avant tout un loisir. Hein. C'est une découverte de l'activité. On essaye de leur apprendre certaines technique aussi de base du jeu, mais faut que ça reste quand même ludique, très ludique, hein, ça reste des vacances quand même. Bon, est-ce que ça vous plaît le Tchoukball ?
Oui !
Et oui, si vous aussi vous voulez découvrir alors le Tchoukball ou pourquoi pas faire d'autres activités, il reste quelques rares places pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à appeler le service des sports au 02 43 09 61 50. C'est désormais l'heure de la rubrique initiative, reprise par sa présentatrice originelle. Moi, j'ai essayé de remplacer la pendant deux jours, Claire. Aujourd'hui, on aide le Refuge de l'Arche, Claire.
Et oui, le Refuge de Château-Gontier lance une cagnotte pour financer une chuchoteuse. Le chuchoteur, c'est un éducateur ou rééducateur de chevaux qui utilise des méthodes basées sur la compréhension du comportement. Et la technique la plus connue est de leur parler calmement, de chuchoter, donc, à leurs oreilles. Cette personne sera utile au Refuge car beaucoup de chevaux recueillis sont âgés, 20 ans en moyenne, et ont besoin d'être réhabitués à la présence humaine. Cette cagnotte permettra aussi le financement de soins vétérinaires. Elle est à retrouver sur le site okpal.com en tapant « murmurer à l'oreille de nos chevaux ».
Et puis on en parlait tout à l'heure, on a annoncé l'ouverture des sites patrimoniaux extérieurs.
Et oui, d'autres en avaient profité bien avant, c'est le collectif LSK avec les rappeurs mayennais ADN Inconnu et Medman. En effet, ils ont tourné leur clip au musée Robert Tatin à Conceil-Vivien. Vous retrouverez les sculptures colossales, l'allée des géants pour le titre Wakanda, et le clip est à retrouver sur YouTube en tapant ADN Inconnu et Medman Wakanda.
Tout simplement, évidemment. Merci beaucoup Claire, c'est bien noté. Nous aussi, nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, pourquoi pas, à laisser vos initiatives sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. Merci Claire, puisque c'est déjà la fin de notre émission L'AJT du local. Merci beaucoup.
Et oui, merci Marie, merci tout le monde, c'est passé vite. À demain.
Et oui, et à demain, bien sûr. Vous, en attendant, vous pouvez rester évidemment à notre écoute. À 19h, il y aura la sagesse de Tugue avec la question du jour. L'action politique peut-elle être autre chose que la recherche d'un moindre mal ? Réponse en une heure à partir de 19h. Ce sera suivi à 21h de l'émission Rock My Soul. Et nous, comme Claire l'a si bien dit, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.